parle mieux. Bonjour à tous. Une petite annonce avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet pour vous rappeler qu'il n'y aura pas de conférence ici mardi et jeudi prochain. C'est la semaine des seniors, mais il y aura une conférence, comme vous le savez, le lundi soir, une belle conférence de Joseph Abraham que nous avions déjà reçue l'année dernière sur l'architecture et notamment les questions de restauration, agir dans l'existant. Et comme vous le savez également, il y aura une conférence de Jacqueline Marois mercredi prochain à 10h. Au 60 rue de la Bellefeuille, donc à la maison des associations, au quatrième étage. Voilà pour les annonces. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir Serge Effèze, qui vient de manger un sandwich en 2 minutes. Voilà, le pauvre. Donc vraiment, je le remercie vivement de venir nous voir entre ses multiples activités. Alors, Serge Effèze, vous êtes psychanalyste et thérapeute familial et conjugal. Vous êtes responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à la Pitié-Salpêtrière, dont vous arrivez, vous m'avez dit. Vous êtes également chef d'une unité de soutien psychologique pour les personnes concernées par le sida. Vous travaillez sur la sexualité, les questions liées à la toxicomanie et depuis 2014 sur les jeunes confrontés à la radicalisation islamiste. Vous avez collaboré à de nombreux médias, évidemment, nous le savons, réalisé plusieurs séries documentaires pour la télévision, collaboré au Journal de la Santé, au magazine Les Maternelles, créé un blog pour Libération il y a quelques années, produit des émissions sur France Culture et sur France Inter. Voici quelques-unes de vos activités. Alors, la semaine dernière, nous avons écouté Bruno Clavier, et qui était revenu sur les fantômes familiaux, et cela n'avait pas manqué de susciter le débat dans la salle. Alors aujourd'hui, nous avions donc étudié avec lui les ascendants. Cette semaine, si vous m'autorisez à parler ainsi, place au présent avec la conférence que vous nous proposez, la famille au XXIe siècle. Alors, à quoi ressemble une famille aujourd'hui? C'est peut-être avant tout un réseau de coparentalité plutôt qu'un réseau lié par la procréation. La famille se transforme et se recompose, adoption, PMA, reconnaissance des couples homosexuels. Ces sujets contribuent à repenser ou du moins à réinterroger notre conception de la famille. Serge Effèze, merci encore d'être parmi nous et nous vous écoutons.
Merci. Eh ben, ah oui, ça sonne bien. Bonjour à tous. Eh ben, écoutez, je suis ravi d'être là avec vous et puis surtout de débattre avec vous parce que j'adore ça. Donc je vais faire un sujet d'à peu près une heure et puis après on aura comme ça plein de temps pour discuter parce que les sujets dont je vais vous parler, qui sont les transformations de la famille contemporaine, sont des sujets qui prêtent beaucoup à polémique, hein, on le sait bien, c'est des sujets qui font descendre des manifestants dans la rue autour du mariage pour tous, autour des questions liées à l'homoparentalité, on l'a vu il y a quelques années, on le voit aujourd'hui autour des questions liées à la PMA, à la procréation médicalement assistée, pour les couples de femmes, pour les femmes seules. Bref, cette question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une famille, qui fait famille. Peut-être tout simplement même la définition d'une famille, c'est des choses qui semblent nous échapper de plus en plus, c'est des choses qui allaient de soi, mais c'est des choses qui sont de plus en plus complexes, et qui sont de plus en plus complexes pour les enfants et les adolescents dont je m'occupe, et qui posent effectivement cette question, c'est qui ma famille, qui fait partie de ma famille, qui est à l'intérieur, qui est à l'extérieur. C'est des questions très complexes parce que ça donne une identité, comme vous le savez, et on se définit avant tout, le plus souvent, par la famille à laquelle on appartient, la famille d'où on vient. Et tous les protagonistes de la famille aujourd'hui sont beaucoup plus complexes que quand la famille était une unité procréative autour du mariage indéfectible d'un homme et d'une femme qui procréaient sous la couette, ou s'il n'y avait pas de couette, sous les couvertures, des enfants nés naturellement de leur union. Alors d'où je parle quand je parle de famille? Je parle de ma propre expérience où depuis près de 40 ans maintenant, je fais ce qui s'appelle de la thérapie familiale. Et notamment depuis pas mal de temps, je dirige, comme on vous l'a dit, dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, une grande unité de thérapie familiale, c'est-à-dire une unité où sont prises en charge les familles. Alors, je voudrais vous dire deux mots sur ce qu'est ce travail, pour que vous compreniez bien la façon dont je me représente ce qu'est une famille. D'ailleurs, je suis sûr, si je vous posais la question tout de suite ici d'emblée, mais donnez-moi une définition de la famille, eh bien, quelque chose qui a l'air si simple, je pense, vous ferait finalement être un peu mesurer la complexité de la définition qu'on peut en donner. En tout cas, la thérapie familiale, c'est recevoir dans une même pièce, autour d'un enfant ou d'un adolescent qui exprime une souffrance, qui exprime des symptômes, les symptômes de l'adolescence comme l'anorexie mentale, comme je sais pas, des tentatives de suicide, des passages à l'acte, de la violence, une addiction au cannabis ou à autre chose. Enfin bon, toute la manière dont les enfants et les adolescents expriment leur malaise, eh bien, c'est de considérer que ce malaise, ces symptômes n'appartiennent pas qu'à lui, qu'ils appartiennent à l'ensemble de son groupe familial. Ce qui ne veut pas dire qu'on pense que c'est parce qu'il a eu des mauvais parents, c'est parce qu'il a été mal éduqué, qu'on va donner des conseils aux parents pour mieux se débrouiller par rapport à cet enfant ou cet adolescent. Ça veut dire qu'on considère que ces symptômes ont un sens par rapport à cette famille, à l'histoire de cette famille et à la dynamique de cette famille aujourd'hui. Bien sûr, il reflète des conflits intérieurs à cet enfant et cet adolescent, mais il reflète aussi des conflits qui se déroulent autour de lui, voire des conflits qui sont transmis dans sa famille depuis un certain temps. Et quand je parle de transmission, je ne parle pas de transmission génétique, même si elle existe, mais je parle de transmission psychique qui se produit entre les membres de la famille, entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs, à l'intérieur d'une fratrie. Et ceci m'amène à vous donner ces deux définitions de la famille que l'on peut avoir lorsqu'on demande qu'est-ce que c'est qu'une famille. Il y a une définition que j'appelle la définition horizontale et une définition que j'appelle la famille verticale. Alors la famille horizontale et la famille verticale, ce sont les mêmes, mais ça n'est pas la même façon de les regarder et de les considérer. Si justement je vous avais posé cette question là, dites-moi qui est votre famille, eh bien vous auriez vu à travers les différentes réponses qu'il y a deux façons de répondre à cette question. La première façon d'y répondre, c'est de dire mes grands-parents venaient d'Algérie, ils ont émigré en France en telle année, et mon père est né de cette union. Ensuite, mes grands-parents se sont séparés, mon père a eu un demi-frère et une demi-sœur, puis il a rencontré ma mère en faisant ses études à Marseille, et ma mère, elle avait des parents qui venaient d'Italie, et puis ils sont tombés amoureux, et puis etc. etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que dire qui est ma famille, c'est raconter une histoire, qui est l'histoire de sa famille, qui est l'histoire de ses origines. C'est-à-dire, répondre à cette question, qui est ta famille, c'est répondre à la question, d'où je viens. D'où je viens, c'est-à-dire, quelle place j'occupe dans le déroulé de l'histoire. Et c'est ce que j'appelle la famille verticale, au sens où c'est une famille qui remonte dans le passé. Et pour la décrire, eh bien, on donne cette description qui est celle des générations, qui est celle de la succession des générations, qui est celle de l'arbre généalogique. Beaucoup sont intéressés à la généalogie aujourd'hui, c'est-à-dire retrouver à travers cet entrecroisement des branches un sens peut-être au fait qu'on est au monde aujourd'hui, qu'on est là au monde aujourd'hui, parce qu'on est le produit de cette histoire et qu'on est le produit d'un désir qui est celui de deux parents, de vous avoir mis au monde. Et quand je dis ça, quel que soit le mode de procréation et de venue au monde, il peut aussi bien s'agir d'adoption que d'une procréation charnelle. Mais en tout cas, on s'inscrit là, dans cette généalogie. Et donc, qui je suis, c'est l'histoire de cette famille. Et puis, il y a un autre mode de description qui serait peut-être venu autour de cette question, qui est, eh bien, en ce moment, j'habite dans une maison avec ma deuxième compagne, Dans cette maison habite le fils de ma première union, qui est chez nous en résidence alternée. Ma compagne a deux enfants qui passent chez nous la majorité du temps. Et ensemble, nous avons eu un petit garçon qui a aujourd'hui 3 ans. Et il y a des conflits à l'heure actuelle dans la famille parce que mes beaux-parents veulent intervenir dans l'éducation de cet enfant. Je dis n'importe quoi au moment où je le dis. Mais enfin, vous entendez bien que ce n'est pas tout à fait la même description. C'est ce que j'appelle la description horizontale, c'est-à-dire c'est la description d'un groupe à un moment du temps. C'est la description dans l'ici et maintenant de protagonistes qui sont reliés les uns avec les autres par des liens de sang, par des liens d'alliance, par des liens de recomposition, etc., etc. Et que c'est cet ensemble de liens aujourd'hui qui fait la famille à laquelle on appartient. Donc on n'est plus dans la verticalité de l'histoire, on est dans l'horizontalité des interactions, des liens au jour le jour, on pourrait dire. Et quand je dis au jour le jour, vous entendez bien à travers ces deux descriptions que lorsqu'on parle de famille verticale, eh bien c'est une famille qui n'a jamais de début et jamais de fin. C'est une famille qui remonte à Adam et Ève, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est toujours issu de génération en génération, à cette histoire qui remonte à la nuit des temps. Donc c'est une famille qui, ne naît jamais et ne meurt jamais parce qu'elle est toujours déjà là. Tandis que la famille horizontale, on pourrait dire qu'elle naît et qu'elle meurt quasiment tous les jours, parce que cette famille, elle se transforme. Elle se transforme parce qu'il y a des unions, parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a des divorces, parce que des enfants quittent le foyer et vont faire leur vie ailleurs, etc., etc. Donc, ce groupe familial, il est très mouvant et il est en perpétuelle transformation. Donc, on pourrait dire que cette famille horizontale, elle naît et elle meurt un petit peu tous les jours, contrairement à cette famille verticale, mais nous appartenons, vous l'aurez bien compris, à une seule famille qui est à la fois inscrite dans une horizontalité et dans une verticalité. Alors, de quoi est-ce qu'on peut souffrir dans une famille? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, un adolescent, ou même tout membre de la famille, même un parent, bien évidemment, enfin, moi, je parle un peu de ma lorgnette de pédopsychiatre, qu'est-ce qui fait qu'un enfant va exprimer des symptômes et une souffrance? Eh bien, on peut dire que il peut souffrir de problèmes verticaux ou de problèmes horizontaux, ou les deux, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que cette souffrance que va exprimer un enfant peut être le résultat de processus de transmission qui sont liés à l'histoire de cette famille. Par exemple, cette famille qui a immigré dans les années 50 d'un autre pays, qui a vécu le traumatisme de l'exil, le traumatisme de la séparation, eh bien, pour cet enfant qui n'a rien vécu de tout ça, qui est né bien après, parfois 2 générations après, eh bien, il y aura été transmis quelque chose de cette histoire qui l'affecte aujourd'hui. Et ce sont ces processus de transmission qui sont peut-être les plus complexes à comprendre, parce que qu'est-ce qui fait qu'on souffre de quelque chose dont on ne parle pas forcément? Comment est-ce que ça vous est transmis? Comment est-ce que c'est dit? Les secrets de famille, par exemple. On parle beaucoup des secrets de famille, et vous le savez bien, et de l'importance des secrets de famille. Or, justement, un secret, par définition, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais on sait bien aussi que, et peut-être que certains d'entre vous l'ont éprouvé, qu'on peut être affecté dans le présent par un deuil, un traumatisme qui s'est produit dans l'histoire de la famille bien avant votre naissance, mais qui a de l'importance, qui a du poids par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Donc ça, c'est, on pourrait appeler ça la souffrance dans la filiation, c'est-à-dire quelque chose dans ces processus de transmission qui vous affecte aujourd'hui. Et puis, il peut y avoir souffrance dans ce que j'appelle l'affiliation, c'est-à-dire la façon dont chacun est relié dans la famille aujourd'hui et ce qui peut produire souffrance, problème, dans l'ici et maintenant. Alors ça aussi, c'est des choses qui vous sont familières. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un couple de parents qui se disputent dans leur chambre à coucher, puis vous avez un des deux enfants qui se lève et qui va dans le lit de ses parents en disant « j'ai fait un cauchemar et je ne me sens pas bien ». Donc, vous voyez que ce qui affecte cet enfant, c'est ce conflit qui ne le concerne pas directement, qui est celui de ses parents, mais qu'il s'approprie d'une certaine façon, c'est-à-dire dont il se sent le dépositaire, pour ne pas dire le responsable. Et il prend sur lui d'aller se mettre dans le lit de ses parents, entre ses deux parents, dans l'espoir de calmer ce conflit entre ses deux parents et de les réconcilier. Donc ça, c'est la façon dont on peut être affecté dans l'horizontalité, c'est-à-dire affecté dans les liens familiaux aujourd'hui. Il peut y avoir une rivalité extrêmement forte entre deux frères, par exemple, qui empoisonne la vie quotidienne de la famille. Autrement dit, chacun est pris dans ce qu'on appelle des conflits de loyauté dans le présent, c'est-à-dire voilà de quelle façon il va résoudre des problèmes qui sont liés à d'autres protagonistes à l'intérieur du groupe. Dans cette famille horizontale, eh bien, chacun occupe une place, chacun occupe un rôle. Chacun, ce matin par exemple à ma consultation, je recevais une famille et 5 garçons. Oui, c'était une grande famille, heureusement on a une grande pièce avec beaucoup de fauteuils, parce qu'il nous arrive aussi de recevoir les grands-parents, des oncles et tantes, enfin bon, on peut parfois être 20 dans une pièce de thérapie familiale. Et très vite, je leur ai dit, mais alors vous êtes comme Blanche-Neige et les 7 nains, parce qu'il y avait celui qui était le grincheux, celui qui était le sage, celui qui avait le savoir, celui qui réconciliait les autres. Bref, chacun dans sa famille occupait une place particulière, et il y en avait un qui était particulièrement en souffrance et qui, d'une certaine façon, exprimait la souffrance de la famille, et c'était lui qui avait été hospitalisé, et c'était lui qui avait fait des tentatives de suicide. Alors, encore une fois, ça n'est pas la faute de sa famille, ni la faute de ses parents, c'est la façon dont sont agencées les relations à l'intérieur du groupe. Vous savez, il y a une métaphore que j'emploie souvent pour faire décrire cette horizontalité. C'est celle d'un bateau qui fait naufrage. Vous avez un bateau qui fait naufrage, vous avez 12 personnes qui se retrouvent sur une île déserte, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le groupe, à moins qu'il y ait une espèce de leader qui se décide et qui prenne le pouvoir sur tous, un tyran, ben le groupe va s'auto-organiser, c'est-à-dire que chacun va prendre une place pour la survie du groupe. Il y a celui qui va construire le camp, celui qui va explorer l'île, celui qui va s'occuper de la nourriture, etc., etc. Puis, à côté de ces places concrètes, il y a des places psychiques, c'est-à-dire il y a celui qui va raconter l'histoire du groupe, celui qui va faire rire pour calmer les tensions, celui qui, au contraire, va foutre le bordel, si je peux dire, c'est-à-dire va toujours essayer de créer des tensions à l'intérieur du groupe. Et il n'y a pas besoin d'être sur une île déserte pour voir ça. Il suffit de passer des vacances avec des copains dans une maison, et puis on voit bien que les mêmes places et les mêmes rôles se dessinent très vite. Alors, quand vous êtes enfermé dans votre rôle, eh bien, c'est difficile d'en sortir. Et vous savez bien que dans un groupe, ce qui peut se passer, si le groupe est en danger, c'est qu'il y a un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est celui sur lequel toute la tension du groupe va se déposer. Va se cristalliser. C'est celui qui va être le fauteur de tous les troubles, le responsable de tous les maux. Et le bouc émissaire, il peut être très important dans un groupe en crise. Donc il y a une personne qui se désigne d'une certaine façon, et surtout qui est désignée par le groupe pour occuper cette place. Et bien, dans une famille, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que dans une famille en crise, dans une famille en danger, il peut y avoir un ou une bouc émissaire qui devient le dépositaire des angoisses, des colères, des problématiques diverses à l'intérieur de la famille. Et souvent, quand nous recevons ces familles avec un enfant en difficulté, on s'aperçoit qu'il est un peu le bouc émissaire de ce groupe. Personne n'est responsable, comme dans notre groupe de naufragés. Il n'y en a pas un qui a désigné tous les autres, mais les choses se sont définies à travers l'histoire et à travers les relations à l'intérieur du groupe. Alors, en vous disant tout ça, je ne suis pas encore dans la famille contemporaine, mais je suis déjà dans quelque chose qui permet peut-être d'éclaircir un petit peu plus ce que sont les fonctionnements familiaux entre cette filiation et cette affiliation, entre ces transmissions verticales et horizontales. Alors maintenant qu'on est un peu plus familier avec la famille telle que je l'entends, eh bien, en quoi, qu'est-ce qui a changé? En quoi est-ce que cette famille a changé? Cette famille, elle a changé parce que elle a suivi, on pourrait dire, le cours de l'histoire. Vous savez, la famille, c'est la courroie de transmission des valeurs de la société dans laquelle on vit. C'est à travers la famille et à travers ce qui est transmis à l'intérieur de la famille que sont transmis les valeurs, les coutumes, les mœurs, les usages, les croyances de la société à laquelle on participe. En ce sens, une famille, chez les Mao de Chine, n'est pas du tout la même famille qu'une famille dans la campagne française. Ils n'ont pas du tout la même structure et ils ne transmettent pas les mêmes valeurs. Par exemple, chez les Mao de Chine, qui est un peu une civilisation que j'ai un petit peu étudiée, vous serez surpris d'entendre qu'il n'y a pas de père. C'est des familles sans père. C'est des familles dans lesquelles les enfants sont élevés, continuent d'être élevés au domicile de leurs parents. Et que donc, les enfants sont élevés par leurs parents et leurs oncles, qui restent évidemment au domicile, puisque toute la branche familiale reste dans une maison. Alors, comment est-ce qu'on fait des enfants sans qu'il y ait d'inceste en restant dans le foyer de ses parents? Il y a fécondation anonyme par des hommes du village, des jeunes filles de la famille. Et comme c'est des jeunes filles qui sont un petit peu libres, ces jeunes filles choisissent un homme dans le village. Un jour, elle désigne, elle dit « toi ». Et cet homme vient la rejoindre en cachette le soir dans sa couche et lui fait, dans le meilleur des cas, la féconde et elle porte un enfant. Mais cet homme n'est pas le père de cet enfant. C'est comme le don, c'est un peu organisé comme le don de sperme anonyme aujourd'hui. Mais c'est un anonymat qui est intégré dans la culture de cette tribu, qui est une tribu de très, 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 très importante. C'est des millions de personnes en Chine. Enfin, c'était, parce que maintenant, ça tend à disparaître. La pire insulte qu'on puisse faire à un enfant, c'est de lui dire « Ah ben voilà, tu vois, cet homme-là, c'est lui qui est ton père. » Parce que ça, c'est tabou. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez que c'est l'inverse des valeurs qui sont les nôtres, où le père a beaucoup d'importance, où ne pas connaître qui est son père est considéré comme un des plus grands traumatismes qu'un enfant puisse avoir. Là, c'est exactement l'inverse des valeurs. Mais la famille, de par sa forme et de par ce qu'elle transmet aux enfants, transmet ces valeurs-là. Donc, notre famille à nous, notre famille française, comme la plupart des familles dans les pays européens, c'est une famille qui transmettait d'autres valeurs qui étaient, on pourrait dire, les valeurs patriarcales. C'est une famille patriarcale. Enfin, c'était une famille patriarcale. Une famille patriarcale, ça veut dire quoi? Ça veut dire une famille dans laquelle le père occupe un statut et une place différente de la mère et un statut supérieur selon les valeurs de la société dans lesquelles ils sont. C'est-à-dire que l'autorité paternelle, c'est une autorité, on pourrait dire, quasiment divine. C'est une autorité qui est transmise de par Dieu au roi de France, qui la transmet transcendantalement à tous les pères du royaume. Quand il y a eu la Révolution française et qu'on a décapité la tête au roi de France, Balzac, quelques années après, a dit « quand on a coupé la tête au roi de France, on a coupé la tête à tous les pères du royaume ». Voyez ? Et ça avait du sens, parce que ce régime patriarcal, qui était un régime autoritaire et un régime monarchique, était le même qui se retrouvait à l'intérieur de la famille dans le statut et la position du pater familias, du père de famille. Donc, il y a deux choses qui caractérisaient cette famille, cette place du père et le fait que le mariage était indéfectible. C'est-à-dire que d'abord, on ne choisissait pas avec qui on se mariait, que ça avait du sens par rapport aux transmissions à l'intérieur de la société, et que l'époux et l'épouse ne se choisissaient pas, mais étaient choisis, de par une logique verticale, une logique de transmission, une logique généalogique. et la place de ce père. Donc, mariage indéfectible, pater familias. Au moment de la Révolution française, c'est intéressant de remonter à ça, en 1789, une des premières lois qui est votée, c'est l'autorisation du divorce. Et là, il y a des milliers de couples qui s'engouffrent dans cette brèche pour jouir d'une nouvelle liberté qui leur a été donnée et de sortir de cet enfermement familial et conjugal dans lequel ils se sentaient, à tel point que très rapidement, c'est apparu comme un danger, comme un trouble, un vrai trouble dans la société, parce que ça remettait en question la structure fondamentale de la famille et des processus de transmission, et que très peu de temps après, 2 ans ou 3 ans après, eh bien, cette loi, elle a été supprimée. On a écrit sur le fronton de la République, comme vous le savez, liberté, égalité, fraternité. Cette égalité, elle n'a pas été tout à fait la même pour les citoyens et les citoyennes, hein, comme vous le savez, c'était une égalité plus masculine que féminine. À tel point que, quand il y a eu le code Napoléon de 1804, qui est un des premiers codes qui a légiféré sur la question de la famille, eh bien, il est inscrit très explicitement dans le code Napoléon que la famille est sous l'égide de la puissance paternelle. Donc, l'épouse, les enfants sont des mineurs légaux par rapport au père qui occupe cette place, cette puissance paternelle. Et il faut attendre. Il faut attendre quand ? Ben, il faut attendre 1970 pour que soit votée la loi sur l'autorité parentale conjointe. 1970, pardon, je vois beaucoup de cheveux blancs dans la salle, mais enfin, voilà, c'est des années qu'on a tous traversées très, très largement. Moi, je me souviens quand j'étais enfant et que je voyais que ma mère n'avait pas le droit de demander un chéquier sans l'autorisation de son mari, je trouvais que c'était des choses un peu bizarres dans la société dans laquelle on vivait. Donc, puissance paternelle d'un côté, autorité parentale conjointe de l'autre, on voit que c'est pas du tout, ça désigne pas du tout la même chose, hein, si les mots ont un sens. Ça désigne un vrai principe d'égalité à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire que le père et la mère sont égaux. Sont égaux dans leur statut par rapport aux enfants. Deuxième loi dans ces mêmes années extrêmement importante, c'est le fait que le divorce, que les lois sur le divorce commencent à s'alléger considérablement. Bon, le divorce, il était déjà permis, mais il restait très, 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 très marginal. Moi, quand j'étais enfant, dans mon école qui avait 300 élèves, il y en avait un seul qui était issu de parents divorcés. Je peux vous dire qu'il se planquait et qu'il n'osait pas dire que ses parents étaient divorcés, tellement c'était tabou. Aujourd'hui, dans les classes de mes petits-enfants, ceux qui ont des parents qui sont toujours ensemble, ils sont regardés un petit peu comme des bêtes curieuses, quoi. Ah bon, tes parents sont toujours ensemble ? Mais c'est incroyable, mais comment c'est possible, etc. Donc, c'est des changements tout à fait considérables et tout à fait rapides qui se sont mis en place dans la transformation. Et là, je ne suis pas encore dans les histoires d'homoparentalité, de PMA, etc. Mais déjà, dans sa structure, dans son essence, la famille commence à se transformer. D'une part, parce que la situation du couple n'est plus pérenne, n'est plus stable, mais peut être remise en question du jour au lendemain. D'autre part, parce que la place du mariage est totalement décentrée, c'est-à-dire que les enfants nés dans le cadre du mariage et hors cadre du mariage ont exactement les mêmes droits et les mêmes statuts. Alors qu'auparavant, les enfants bâtards, eh ben, ils avaient qu'à errer dans les limbes du monde, et les filles-mères qui n'avaient pas de mari, eh ben, au mieux, elles pouvaient aller au couvent, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de destin social en dehors du mariage. Et que même le célibat était quelque chose d'extrêmement mal vu, sauf si on était curé ou éventuellement militaire. Donc, le statut des personnes commence à devenir différent. Il y a autour de l'égalité des sexes un profond mouvement dans la société d'égalisation des places et des rôles entre les hommes et les femmes, et que donc ça se répercute à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de cette fameuse autorité parentale conjointe, qui crée une situation de conflit, de négociation quotidienne à l'intérieur de la famille. Qui fait quoi ? Qui est responsable de quoi ? Qui sait faire quoi ? Et que toutes famille, encore une fois, même la famille la plus traditionnelle dans son aspect, avec un couple parental marié et des enfants, elle est traversée en profondeur par ces questions de genre, c'est-à-dire ces questions d'égalité et ces questions de compétences entre les hommes et les femmes et entre les pères et les mères. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui structurait la parentalité autrefois et la parenté, c'était cette complémentarité naturelle entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout sur les mêmes territoires. Ils n'avaient pas à s'affronter parce qu'ils étaient chacun sur leur domaine de compétences. Et que le mariage indéfectible faisait que les conflits conjugaux n'avaient même pas de sens. De toute façon, il fallait qu'on reste ensemble. Donc. Mais que surtout, la complémentarité, c'était que voilà, la femme, la mère, de par sa nature, s'occupe des enfants, s'occupe des foyers, s'occupe du foyer, s'occupe de l'intériorité, elle est dans le care, etc. Et que l'homme, de par sa nature, il est conquérant, il explore la société, il transmet les valeurs il transmet le patrimoine, les valeurs de la société, etc. Tout ça était considéré comme des caractéristiques, des compétences naturelles des hommes et des femmes, parce que c'était comme ça depuis la nuit des temps, depuis Adam et Ève. Et que ça voulait dire que la relation homme-femme, la relation père-mère, n'avait pas de raison d'être conflictuelle. Chacun était sur son territoire de compétences. On voit bien que autorité parentale conjointe, ça veut dire ça ne veut pas dire que les hommes deviennent des femmes et que les femmes deviennent des hommes. Ça veut dire que la question des compétences se négocie dans la relation. Les compétences se négocient au quotidien entre les hommes et les femmes, et les pères et les mères, et ça commence dans les couples, chez les jeunes couples, et encore plus quand il y a un accès à la parentalité, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui relève de l'un et de l'autre? Quelles sont les caractéristiques naturelles de l'un et de l'autre? Quelles sont les compétences acquises? Quelles sont les compétences naturelles? Vous voyez que ce débat traverse notre société depuis des années et des années, et qu'on n'a pas fini d'en débattre autour des transformations que suscite cette égalité entre les hommes et les femmes. Donc, une des conséquences, évidemment, de cela, déjà, c'est que les couples deviennent beaucoup plus fragiles, que le mariage étant, qui n'a même pas besoin de contracter un mariage pour faire une famille, que même si on l'a contracté, ça devient un simple contrat qui peut se défaire quasiment aussi facilement qu'il ne s'est constitué. Et donc, c'est évidemment cette succession de décomposition et de recomposition. Cette succession de séparation, plutôt que le mot décomposition qui n'est pas très joli, et que donc, la question de la coparentalité, parce que comme ça vous a été dit en introduction, pour moi, il y a deux caractéristiques qui définissent la famille contemporaine. C'est premièrement la coparentalité, deuxièmement la pluriparentalité. Donc, pour moi, la coparentalité, qui est l'exercice conjoint de la parentalité, ça commence à l'intérieur du couple conjugal, dans cette négociation, souvent conflictuelle, des rôles et des places de chacun, et ça se continue à travers les recompositions. Comment est-ce que un père, un beau-père, une mère, une belle-mère vont exercer ce processus très complexe de la coparentalité? Comment est-ce qu'ils vont se mettre d'accord? Même si on pense qu'il n'y a qu'un père et il n'y a qu'une mère, mais enfin, un enfant qui, depuis l'âge de 6 mois, est élevé par une mère et un beau-père dans lequel il passe la plupart de son temps parce que c'est une résidence traditionnelle, disons, où le père n'a les enfants que le week-end et la moitié des vacances, eh ben, il passe la plupart de son temps avec un homme qui lui raconte des histoires le soir, qui lui dit d'aller se laver les dents et qui l'engueule quand il ne va pas à l'école. On peut dire que ce n'est pas son père, mais enfin, c'est quand même sacrément l'exercice d'une fonction parentale et d'une fonction paternelle. Donc comment se négocie cette fonction paternelle par rapport à la place du père? Même chose pour la mère. Comment se met en place le processus de fraternité dans ces familles recomposées? Vous avez de plus en plus aujourd'hui des boîtes aux lettres sur lesquelles il y a 4 noms de famille, ou 5, hein, bien évidemment, et dans lesquelles sont élevés 4 enfants qui sont à la fois frères et sœurs, c'est ça qui est intéressant, mais qui n'ont pas la même famille chacun, qui n'ont pas les mêmes parents. Et pourtant, ils sont frères et sœurs. Vous voyez, il suffit qu'un homme et une femme aient chacun un enfant de son côté, et qu'ils se séparent, qu'ils recomposent une famille et qu'ils aient un enfant. Vous avez dans le même foyer 3 enfants qui sont frères et sœurs et qui revendiquent d'être frères et sœurs, et pourtant ils n'ont pas le même nom, et pourtant ils n'ont pas la même famille, et pourtant ils n'ont pas les mêmes grands-parents. Donc qu'est-ce que c'est qu'une famille dans ces situations-là? Comment est-ce qu'une famille va résoudre le paradoxe d'être à la fois une, parce qu'on n'a qu'une famille, et en même temps multiple, parce qu'ils sont issus de deux histoires, de deux verticalités différentes? Comment se passent les processus d'affiliation, les processus de transmission dans cette situation très simple des recompositions familiales qui, encore une fois, deviennent quasiment égaux aux situations de non-recomposition dans une ville comme Paris. Donc c'est des situations qui sont aussi fréquentes et aussi banales que les autres. Deuxième changement qui est lié à ces questions de l'égalité des sexes et, je dirais, d'émergence d'égalité des sexualités aussi, eh bien, c'est que les personnes homosexuelles acquièrent une autre visibilité, un autre droit, qu'ils sortent d'un statut de citoyen de seconde zone, qui n'avaient pas d'autre choix dans leur vie que de se cacher, ou en tout cas d'être le plus discret possible, eh bien, ils deviennent des personnes qui ont des statuts de citoyen à part entière et des droits de citoyen à part entière. Et que donc cette égalité des sexualités amène tout naturellement au mariage pour tous, d'un côté, c'est-à-dire au droit de fonder un couple qui va avoir les mêmes droits que les autres couples, notamment sur les processus de transmission, par exemple, de l'un à l'autre, puis des questions, des possibilités fonder une famille par adoption, par procréation médicalement assistée, etc., par coparentalité, enfin bon, tous les processus qui font qu'il est possible à deux hommes et deux femmes aujourd'hui d'avoir une famille et d'être définis socialement et légalement comme les parents de cet enfant. Troisième ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, ordre de modification qui bouleverse notre société, c'est les avancées de la médecine et les biotechnologies de la reproduction. Donc, il y a d'autres façons de procréer, d'engendrer, d'avoir un enfant que de procréer ses enfants sous la couette, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Il y a d'autres façons de mettre des enfants au monde. Et puis, autre changement, c'est un développement beaucoup plus grand de l'adoption, qui est beaucoup plus ouverte, qui devient une adoption internationale et qui devient en nombre beaucoup plus importante que ça ne l'était autrefois, où c'était quelque chose qui était un petit peu dissimulé, disons. Donc, toutes ces situations font qu'un enfant a plus d'un père, peut avoir, pas forcément, mais bien souvent, un enfant a plus d'un père et plus d'une mère, ou en tout cas plus d'un homme et plus d'une femme, pour expliquer le fait qu'il est au monde et pour donner du sens à sa verticalité. C'est-à-dire pour répondre à la question d'où je viens. Cette question d'où je viens dans la famille traditionnelle, elle était très simple. Tu viens de tes parents, qui eux-mêmes viennent de leurs deux parents, et hop, on fait très vite un petit arbre généalogique, on peut très vite remonter aux croisades. Ça ne pose pas beaucoup de questions. La question d'où je viens aujourd'hui et qui est ma famille devient de plus en plus complexe par rapport à, comme vous le disiez, ce réseau parental, ce réseau d'hommes et de femmes qui existe soit dans la réalité de l'enfant, parce qu'il a deux foyers, deux parents, des beaux-parents, etc., des beaux-grands-parents. Enfin bon, ça peut faire beaucoup de monde autour de l'enfant. Donc c'est ce processus de multiparentalité. Soit parce que dans son histoire, il a fallu plus d'un homme ou plus d'une femme pour qu'il vienne au monde. Et là, on rejoint les histoires de procréation médicalement assistée et les histoires d'adoption. C'est-à-dire qu'il s'agit plus, à ce moment-là, de parenté imaginaire pour l'enfant. Un enfant adopté, par exemple, eh bien, même s'il a été élevé par ses deux parents, qu'il considère ses parents depuis toujours et qu'il aime comme ses parents, eh bien, a toujours dans son esprit le fait qu'il y a un autre homme et une autre femme, parfois dans un pays très lointain, qui font qu'il est là et qu'il est au monde. Et que pour forger son identité, eh bien, il va devoir se référer à cette multiparentalité, à cette coparentalité, même si tout le monde n'est pas à la même place. Vous savez, ce que je vois beaucoup, je reçois à ma consultation énormément de familles qui ont adopté des enfants, et souvent des enfants nourrissons, des enfants en bas âge. Et ces enfants, jusqu'à la puberté, c'est les enfants les plus merveilleux du monde. Ils sont gentils, ils sont sages, ils adorent leurs parents, ils travaillent bien à l'école. Enfin, les parents sont absolument... Déjà qu'ils ont beaucoup galéré pour avoir des enfants, parce que souvent, quand il y a eu adoption, il y a eu avant des tentatives de procréation qui n'ont pas marché, puis des marches dans des pays lointains. Enfin bon, c'est une galère terrible hein, pour adopter des enfants. Et qu'ils voient en plus ces enfants merveilleux qui viennent les combler, et voilà, ils sont ravis. Mais à l'adolescence, très souvent, je ne vous dis pas toujours, mais enfin très souvent, eh ben, c'est des adolescents qui cassent les murs de leur maison. Et quand je dis qu'ils cassent les murs, ce n'est pas une expression imagée, ils cassent les murs de leur maison, tellement ils sont habités par des conflits internes absolument énormes. Et ils cassent tout, et ils arrêtent d'aller à l'école, et ils deviennent absolument odieux avec leur famille, et ils volent à l'intérieur de la famille. Bref, ils expriment un conflit intérieur qu'ils n'arrivent pas à dépasser à ce moment-là autour de la question du « qui suis-je ? » Qui sont mes vrais parents ? Peut-être que ces parents très gentils qu'il a beaucoup aimé jusque-là, en fait, c'est des méchantes personnes qui m'ont enlevé à d'autres parents qui étaient pauvres dans un pays lointain pour s'approprier ma personne et que mes vrais parents, c'est ses autres parents. Donc comment est-ce qu'il va concilier dans son esprit tous les protagonistes de son origine, de ses origines. Alors souvent, je reçois les parents donc à ce moment-là, quand cette traversée de l'adolescence est absolument terrible, et je leur dis, mais accrochez-vous au bastingage, ne lâchez pas le gouvernail, et essayez de traverser cette période, et vous verrez, ça va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais au bout d'un moment, ça va se calmer, et les choses vont se remettre en ordre. Et dans la plupart des cas, c'est effectivement ce qui se passe. Question liée aux procréations médicalement assistées. Comment est-ce qu'on intègre un don de sperme, un don d'ovocyte, un don d'embryon, une gestation pour autrui? Comment est-ce qu'on intègre tous ces éléments dans la dynamique de la famille? Alors vous allez me dire, bon, un spermatozoïde sur un coin de paillasse, on ne va pas en faire toute une histoire, c'est quand même pas une personne, et c'est quand même pas un géniteur ou un père pour un enfant. Eh bien, je vous dirais oui et non. Oui et non, parce que la place imaginaire qu'occupe ce donneur peut être beaucoup plus importante que ce petit spermatozoïde minuscule et invisible à l'œil nu qui a été nécessaire à la venue au monde de cet enfant. Je raconte une anecdote par rapport à ça, qui va peut-être rejoindre les fantômes dont apparemment vous avez parlé la dernière fois. Alors, on n'est pas dans le cadre d'une thérapie familiale, c'est dans le cadre d'une thérapie personnelle d'un monsieur qui a une quarantaine d'années et qui vient me voir pour une thérapie parce qu'il a des moments d'interrogation, d'anxiété, enfin rien de bien grave, mais il veut travailler sur lui-même. Et au premier entretien, il me dit, vous savez, j'ai un fils qui a 8 ans, et heureusement que j'ai cet enfant, parce que pour moi, c'est la lumière de ma vie, c'est mon soleil, c'est lui qui donne du sens à mon existence. Si je ne l'avais pas, je serais beaucoup plus souvent déprimé ou abattu, d'autant qu'on s'est séparé avec sa mère, donc je l'ai une semaine sur deux, et vraiment, c'est la personne la plus importante pour moi. Et puis il glisse comme ça, en fin d'entretien, eh bien, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que cet enfant, j'étais totalement stérile, et cet enfant est né par un don de sperme anonyme, mais bien évidemment, j'ai décidé de ne jamais lui en parler, puisque je suis son père et que je ne voudrais pas le troubler dans le fait que je suis son père. Moi, je me la boucle, puis j'attends. Et puis, quelques mois après, ce même homme me dit, vous savez, depuis que je réfléchis avec vous, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que, et il a cette phrase, chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme qui est le donneur et dont il est issu biologiquement. Chaque fois que je regarde mon fils, je pense à cet homme dont il est issu biologiquement. Alors vous voyez qu'entre le « je n'y pense jamais » et « j'y pense toujours », il y a sûrement toute une frontière qui est celle qu'on connaît bien, qui est celle de l'inconscient, hein, où les savoirs, ils sont là, et puis on sait, on ne sait pas, on n'oublie pas, on n'y pense pas. Mais enfin, quand même, ce qu'il dit a du sens. Ce qu'il dit a du sens, et j'ai imaginé cet homme, comme ça, une scène imaginaire, j'ai imaginé cet homme à quatre pattes en train de jouer au train électrique avec son fils adoré. Et puis j'ai imaginé que tout à coup, il pensait au donneur. Et j'ai imaginé que comme il pense au donneur, ben, il y a le donneur qui traverse la pièce, hein, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il regarde le donneur, et puis que son fils, qui est en face de lui, il regarde son père, et il voit le regard de son père qui se trouble. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi papa ne me regarde plus? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Alors, si vous imaginez cette scène qui se reproduit tous les jours, parce qu'il y pense tous les jours, vous voyez bien qu'il y a un fantôme qui s'est invité dans la maison. Et que ce petit spermatozoïde, il a généré un fantôme. Et un fantôme qui est là et qui est présent dans la relation entre le père et le fils. Et ça éclaire aussi sur cette question qu'on se posait en début, là, sur comment ça se transmet, ces histoires de secrets de famille. Eh bien, ça se transmet comme ça. Parce qu'il y a dans l'attitude, dans la gestuelle, dans le regard, des choses qui passent, qui créent du trouble, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. On ne sait pas très bien à quoi le rattacher. Mais ça crée du trouble. Et que si ça s'installe, ça crée un trouble persistant dans la relation. Ça, c'est ma façon de nommer les fantômes. C'est tous ces personnages qui ne sont pas là, mais qui en même temps sont là. Et pour un enfant adopté, eh bien, l'homme et la femme dont il est issu peuvent aussi être des fantômes qui sont assis à la table familiale à leur insu quand ils sont enfants et puis qui, au moment de l'adolescence, s'invitent avec beaucoup de force à la table familiale pour partager le dîner. Donc, ces familles contemporaines posent très clairement ces questions-là, c'est-à-dire qu'en cas de procréation médicalement assistée, en cas de biotechnologie de la reproduction, quelle place on donne à ces donneurs? Et vous voyez que ce débat, il est très à l'heure actuelle dans la société et qu'il y a des lois qui sont en ce moment en discussion au Sénat et qui vont être revotées à l'Assemblée nationale sur les questions de l'anonymat, par exemple. Est-ce qu'on maintient l'anonymat d'un donneur ou d'une donneuse d'ovocytes, de spermatozoïdes, ou est-ce qu'on lève cet anonymat? Pourquoi? Parce que quand on a voté, quand il s'est créé, quand il y a eu les premières procréations médicalement assistées avec donneurs, il s'est créé les SECOS, qui sont les organismes qui effectuent ces procréations. Et la loi qui a été votée à ce moment-là, c'est l'anonymat absolu, ni vu ni connu. Le type, il rentre quasiment par une porte dérobée, il fait sa petite affaire, il dépose ses spermatozoïdes et puis il repart. Bon, et donc c'était pour faire quoi? C'était pour protéger le père, finalement d'une certaine façon le père, le pater familias, dans sa place incontestée de père de famille. Justement, on voulait éviter le trouble dans la famille autour de ce qu'on entend dans cette famille, autour dans ce père-fils-là, autour du train électrique, c'est-à-dire le trouble qui peut naître des fantaisies autour de ce donneur. Mais en voulant éviter ce trouble, moi, ce que j'ai pu constater dans ma clinique, c'est qu'on en crée bien d'autres dans les relations entre parents et enfants. Mais je ne suis pas le seul à le contester, puisqu'il y a maintenant des enfants nés par procréation qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui remuent le cocotier en disant « Mais de quel droit vous me cachez une partie de mes origines ? Je ne cherche pas un père, j'ai déjà un père que j'aime, mais une partie de mes origines, c'est quand même cet homme qui a donné ses spermatozoïdes, ou ces femmes, c'est beaucoup plus rare, mais enfin, ça existe aussi, qui ont donné ses ovocytes et qui font que je viens au monde. Eh bien, je pense que mon droit, c'est d'aller interpeller cet homme, de lui serrer la main et de lui dire « Merci, grâce à vous, je suis sur Terre. Grâce à vous, je viens au monde. » J'ai oublié de vous dire qu'à la fin de cette séance, quand ce père a pris conscience de la place du donneur, eh bien, il a couru dans une librairie et qu'il a acheté un petit livre illustré pour enfants sur justement les nouvelles formes de famille et de procréation, et que c'était un livre avec des dessins où on expliquait aux enfants que parfois le papa n'avait pas de graines et qu'il y avait un très gentil monsieur qui donnait sa graine et qu'on n'était jamais finalement trop de deux pour faire une belle œuvre. Et il a été raconter ça immédiatement à son fils, et je pense que ça a sûrement créé une relation beaucoup plus fluide entre le père et le fils. Et donc je reviens à ces jeunes qui créent des associations, qui écrivent des livres, qui tempêtent pour faire modifier la loi, pour dire ce donneur, cette donneuse, elle fait partie de mes origines, et donc j'ai le droit de pouvoir l'interpeller. Et la loi est en train de changer. C'est-à-dire qu'est votée en ce moment au Parlement, comme je vous disais, une loi, vraisemblablement, qui va lever l'anonymat des donneurs. Donc c'est pas rétroactif. Ceux qui ont donné anonymement, eh ben, ça continue d'être anonyme. Mais ça veut dire que dans 18 ans, dans 20 ans, les enfants qui auront été procréés à partir du 1er janvier de cette année ou de je ne sais quelle date, eh bien, ils pourront avoir accès à des données identifiantes sur leurs origines. Je termine par une belle histoire, si vous voulez. J'adore raconter les histoires de famille. J'adore les familles, c'est pour ça que j'adore faire le travail que je fais, parce que j'adore le génie des familles, finalement, où à partir du moment où on les prend en compte comme une famille à part entière, et pas simplement comme des parents qui ont mal fait avec leur enfant, mais une famille dans toute sa dynamique, eh bien, très facilement, ils retrouvent la capacité créatrice, la capacité protectrice qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des enfants. Donc c'est l'histoire de deux garçons qui ont été adoptés, un qui a été adopté en Argentine, et 3 ans après, un autre petit garçon qui a été adopté au Chili, tous les deux dans des orphelinats. Et ils ont été adoptés par un couple de parents qui n'était pas stérile. Il n'y avait pas du tout de problème de stérilité, mais c'était un homme et une femme qui s'étaient rencontrés à la suite des années 68-70, des mouvements de libération, et qui avaient décidé qu'il y avait suffisamment d'enfants au monde qui étaient en souffrance, que ce n'était pas la peine d'en faire soi-même, et qu'on pouvait aller chercher des enfants qui n'avaient pas de parents pour pouvoir leur donner une famille et les élever. Donc vous voyez un idéal comme ça de famille très, très, très élevé, à tel point que cet homme s'était fait stériliser lui-même, il s'était fait ligaturer les conduits spermatiques pour être sûr de ne pas avoir d'enfants. Et donc ils font ce qu'ils ont dit, donc ils vont adopter ces deux enfants et ils vont dans des orphelinats où pour eux c'est très important qu'il y ait des données identifiantes, c'est-à-dire que si un jour leurs enfants ont envie de retrouver une partie de leurs origines, eh bien, ils puissent interpeller, rencontrer les familles qui les ont abandonnées, ou en tout cas, disons, données à l'adoption. Et donc, dans cette famille, il se passe ce que je vous décrivais tout à l'heure, ces deux enfants merveilleux, surtout l'aîné, qui est un très, 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 très beau garçon, très doué, très brillant, très fort à l'école, plein de charme, etc., qui séduit tout le monde. Et puis arrive l'adolescence, il devient une espèce de, je sais pas, d'Indien des Andes. Il est grand, il a une peau très mate, il a des longs cheveux noirs très brillants, il a vraiment un physique très, très, très impressionnant et qui détonne un peu avec le physique de ses parents, qui sont tous les deux êtres un peu frêles, un peu blancs, avec des cheveux très blonds. Bref, si vous voulez, c'est un garçon qui, depuis qu'il est né, quasiment, on lui dit « Oh, bah toi, on voit bien que t'es adopté où ? Et c'est qui tes vrais parents ?» Enfin bon, pour se constituer une histoire des origines, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Tandis que le deuxième, eh bien, il ressemble physiquement assez étrangement à sa mère, à tel point que personne ne lui a jamais demandé d'où il venait, tellement ça paraissait naturel qu'il soit issu de ses deux parents. Bref, arrivé à l'adolescence, cet aîné, rue dans les brancards, se bagarre avec tout le monde, est exclu de son lycée, enfin bon, tout va mal. Et les parents sont désespérés. Et il commence donc une thérapie familiale dans laquelle on aborde toutes ces questions-là. Et pendant la thérapie, il y a un voyage scolaire qui est organisé pour ce garçon avec sa classe à Auschwitz. Et on parle beaucoup d'Auschwitz en ce moment, c'est le 50e anniversaire. Alors, il n'a pas très envie d'y aller, mais en même temps, ses copains y vont. Bon, bref, il y va. Et alors, pour ceux qui connaissent ou qui ont entendu parler, il y a un monument dans la cour d'Auschwitz qui est fait avec des valises qui sont empilées les unes sur les autres. Et c'est des valises sur lesquelles est écrit, avec une étiquette, le nom de familles qui ont été déportées et qui ont péri dans le camp. Et alors, il regarde comme ça, puis tout à coup, son regard se fige parce qu'il voit son nom sur une des valises. Et c'est son nom de famille, et c'est un nom très original, si je peux dire, très particulier. Il n'y a personne qui porte ce nom-là en dehors de sa famille. Et là, il s'effondre en sanglots. Et il rentre chez lui, et il interpelle son père. Et il dit, mais raconte-moi cette histoire. Et le père raconte que son propre père, à lui, et toute sa famille ont été déportés, que toute la famille est morte en déportation, sauf lui, bien évidemment, le père du père, et qu'il se marie et qu'il a ce fils unique, qui est le père de ce garçon, appelons-le Alexandre, qui est le père d'Alexandre, et que, malheureusement, ce père avait été tellement fracassé et traumatisé par son expérience des camps et par la perte de toute sa famille, qu'il a été un père absolument exécrable, très violent, très maltraitant avec son fils, qu'il était incapable de lui transmettre de l'affection, de lui témoigner son affection, et que sans doute ça a participé à cette idée du père de se faire stériliser et d'aller adopter des enfants en souffrance. Enfin, il ne le dit pas aussi directement, mais on peut l'imaginer dans ce contexte-là. Alors, je vous raconte ça, ce n'était pas un secret de famille à proprement parler, parce qu'on savait, dans l'histoire familiale, qu'il y avait eu la déportation. Mais une chose est de savoir, et une chose est de raconter l'histoire. C'est-à-dire que le père raconte l'histoire à son fils, évidemment, d'une toute autre façon, et que le fils l'entend d'une toute autre façon, parce qu'il a vécu lui-même, à minima, cette expérience du camp qui l'a affecté. Et à ce moment-là, il décide de partir en Argentine, tout seul, pour retrouver ses parents d'origine, si je peux dire, enfin ses parents biologiques. Et il a 16 ans ou 17 ans, et il fait le voyage tout seul. Il ne parle pas un mot d'espagnol, et il se débrouille. Et il va dans l'organisation et dans l'orphelinat, et il retrouve ses parents, entre guillemets, ses géniteurs, et il découvre toute une famille, avec des frères et sœurs, avec des grands-parents, des cousins. Il est accueilli un peu comme l'enfant prodigue qui revient de loin. Il passe 15 jours extraordinaires à partager des tas de choses avec tous ces gens-là. Et puis il revient à Paris et il dit à ses parents, « Bon, maintenant, j'ai vu, j'ai plus besoin d'y retourner. » Et voyez, c'est ça que j'appelle le travail familial et le travail sur les origines. C'est-à-dire, c'est deux choses qui se passent un petit peu en même temps. C'est-à-dire que le travail, les origines, ce n'est pas ce qu'on a derrière. Ce n'est pas les racines, les origines. Les origines, c'est l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. Et donc, cette histoire, elle est devant vous, parce qu'elle se refait, elle se reproduit un petit peu chaque jour, et qu'elle se reproduit dans le lien à l'autre. Là, elle s'est reproduite d'une certaine façon dans le lien à ce père, c'est-à-dire dans le fait que ce garçon s'est approprié une filiation qui n'est pas sa filiation biologique, mais qui est quand même sa filiation, une généalogie qui n'est pas sa généalogie biologique, mais qui est quand même sa généalogie, où il s'est apparenté à cette histoire extrêmement traumatique. Et en même temps, il s'est approprié une autre origine, qui est celle de ses parents, enfin de ses géniteurs, en Argentine, et il a concilié tout ça à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que le récit de son histoire et le récit de ses origines peut concilier cette coparentalité, cette multiparentalité, et que ça se déroule dans un lien, dans une relation affective avec les autres membres de sa famille. Et je peux vous dire que dans les séances de thérapie familiale, eh bien, moi, je ne suis pas content d'une séance s'il n'y a pas eu un moment où tout le monde a ri ensemble, où tout le monde a pleuré ensemble, parce que c'est quelque chose de savoir qu'on est d'une famille, puis c'est quelque chose d'éprouver le lien familial et de sentir qu'on est une famille et de ressentir qu'on est une famille. Donc la complexité des familles aujourd'hui, eh bien, c'est comment est-ce que ce travail peut se faire. Alors, je ne vous dis pas que c'est comment dire, que c'est plus pathologique ou plus problématique, je dis juste que c'est plus complexe, de s'approprier son histoire familiale, ses questionnements sur les origines, mais que c'est aussi, parfois, souvent, beaucoup de richesse pour ces enfants et ces adolescents. Voilà, je vous remercie et j'attends des questions et un débat.